Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Ici la voix. Ici la voix.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qu'est-ce que la voix? Elle nous accompagne depuis notre naissance, on s'en sert à longueur de journée sans réfléchir. On va donc se poser dans la curiosité cette question. Qu'est-ce que la voix? Tout simplement grâce à notre invité Gérald Fain. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Vous avez une jolie voix.
Le soir, je suis fatigué.
Ah oui, donc la voix, elle évolue au fil de la journée. Ça sera l'une des questions qu'on vous posera. Vous êtes ORL, chirurgien de la voix. Tiens, si vous m'opérez des cordes vocales, serais-je capable de faire ça? Luciano Pavarotti, ça fait rêver.
J'eusse aimé pour vous pouvoir le faire.
C'est impossible. Une opération ne peut pas rendre une casserole comme moi un grand ténor.
Non, parce qu'il y a un don quand même au départ. Mais oui. Je pense que vous êtes doué. On peut
pour autre chose.
Oui. Non, on peut vous faire travailler. On peut. Non, ça se travaille la voix. Mais il faut avoir un don au départ, un peu comme un sportif qui a un don au départ, même s'il ne le sait pas, il travaille un sport et il devient très bon ou internationalement connu. La voix, c'est pareil. Au départ, je pense pas que les chanteurs savent qu'ils vont avoir une carrière internationale. Et au fur et à mesure, on leur dit que leur voix est très belle, ils travaillent, ils ont la chance de certaines rencontres, ils ont surtout le talent de la réussite.
C'est subjectif aussi. On leur dit que leur voix est très belle.
La voix, c'est subjectif. La voix, on écoute. Donc, quand vous fermez les yeux, c'est un instrument de séduction, vous le savez. Mm-hmm. Dans vos métiers de radio, c'est fondamental. On vous choisit pour beaucoup de choses, mais aussi pour la voix.
Gérald Fain, qu'est-ce qui fait qu'une personne chante juste et qu'une autre va nous casser les oreilles?
C'est ce qu'on appelle la boucle entre les oreilles et la voix, la boucle audiophonatoire. C'est-à-dire que chanter juste nécessite une bonne oreille. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à reproduire ce qu'ils entendent. Parce que leur cerveau n'arrive pas à programmer la note. Donc c'est un don.
Donc ça veut dire que les belles voix, ce sont des bons imitateurs de la nature ou des sons ambiants?
Exactement, ce sont des singes vocaux qui reproduisent ce qu'ils ont appris dans l'enfance, ce qu'ils ont écouté et qui ont une voix tout de suite juste. Donc ils n'ont pas besoin de travailler la justesse. Si on commence à devoir travailler la justesse dans une carrière, la carrière n'avancera pas.
Alors on va écouter deux des plus grands singes vocaux, deux grandes stars de la chanson francophone. D'abord Céline Dion.
J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures.
Et puis maintenant Francis Cabrel.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui ne vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire.
Céline Dion, elle perd quasiment son accent quand elle chante. Francis Cabrel, on l'entend. Pourquoi?
C'est un choix personnel, je pense.
Ah bon? On peut gommer son accent, c'est juste une question de volonté.
C'est une question de volonté, puisque vous savez très bien que quand on, par exemple, si on passait sa vie... Moi, je suis né à Paris, si je vais à Marseille, en un an, je vais prendre l'accent. Donc c'est un peu une question de travailler à perdre son accent ou à gagner un autre accent.
C'est quoi, du mimétisme?
C'est toujours du mimétisme, toujours.
Et l'accent anglais de Jane Birkin, ça fait 15 ans qu'elle est en France et qu'elle a le même accent, 50 ans, et elle a toujours ce même accent, c'est une coquetterie?
Il y a beaucoup de thèses qui ont été écrites là-dessus.
Ah, des thèses, carrément.
C'est toujours un mystère, mais je pense que peut-être que les anglo-saxons ont peut-être plus de difficultés. On parle de Céline Dion, elle est francophone. L'accent d'une langue étrangère est peut-être plus difficile à modifier.
Gérald Fain, vous publiez aux éditions Les Petites Pommes du Savoir, quel joli nom pour une maison d'édition, un livre intitulé De la parole au chant, qu'est-ce que la voix? Et vous remontez aux origines. Marc-Olivier Fogiel, tout à l'heure, quand on a fait le passage d'antenne, disait les hommes, ils ont toujours eu de la voix, ils ont toujours parlé. Alors, est-ce que c'est vrai?
C'est vrai, mais au départ, c'était pas des mots, c'était pas des phrases, c'était des borborythmes. On pense que Homo sapiens, autour des 100 000 années, entre 50 000 et 100 000 années, a commencé à émettre des sons. Alors après, l'intelligence humaine fait que ces sons, il les a enchaînés pour créer des mots. des mots que les voisins ne comprenaient pas pour qu'ils puissent se protéger. Donc pour le moment, nous n'avons pas de véritablement l'origine de la voix et on ne sait pas qui a parlé en premier.
C'est-à-dire que les premiers sons, c'était des borborygmes, mais ensuite quoi? Juste des voyelles, par exemple? On peut imaginer ça?
Alors, on pense que les premiers sons, quand on étudie un petit peu tous les livres là-dessus, sont papa-maman. Maman en premier, forcément. Donc, ma. Probablement, le premier mot, c'est ma. Pourquoi? Mais on pense que c'est ça. Ensuite, il y a eu des mots simples. Pas, o. Vous voyez, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, l'esprit humain, qui a quand même une certaine intelligence, a organisé en séquence rythmique, c'est borborygmique. Et la voix, finalement, c'est l'esprit humain qui transmet son émotion, qui essaye de communiquer. La voix, c'est quoi? C'est un instrument de communication au départ. C'est un instrument de plaisir, de séduction. C'est un instrument d'alerte. Donc on pense que les Homo sapiens, comme les animaux, avaient un système d'alerte. Le cri, par exemple, c'est une alerte. Et donc, on pense qu'effectivement, le premier mot était peut-être un cri, comme les animaux.
C'est amusant ce que vous dites quand vous dites que les premiers mots, les premiers sons, peut-être de ces hommes de Cro-Magnon, c'est la syllabe ma. Parce que, bon, pour avoir une petite fille, toute petite, elle a un an, ses premières syllabes, c'est ma, 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 da, da, da. Et c'est tout la voyelle a qui revient.
Exactement.
Est-ce que c'est un élément de réponse, une indication sur.
C'est un élément de réponse par rapport à vous, puisque inconsciemment. Un bébé va vous imiter. Donc un bébé qui est dans une autre langue, par exemple en chinois, il va pas dire ma, il va dire un me, il va changer le ma, ça va être le m. C'est vous qui inconsciemment l'influencez.
Ces premiers mots de Cro-Magnon ou d'Homo sapiens, Jean-Jacques Hano les a imaginés, recréés pour son film La guerre du feu, extrait. Alors évidemment, nous ne comprenons rien, mais dans le film, c'est une langue. Elle a été créée pour le film.
Cette langue a été créée pour le film avec des spécialistes, des idéaux, des spécialistes qui ont essayé de recréer sans avoir d'image ni de son. Donc c'est un peu de l'anticipation du passé. Mais on pense qu'effectivement, c'était un peu comme ça des pseudo-mots, des soupirs, des intonations, etc. C'est comme ça que ça s'est créé. C'est un peu comme quand on apprend à chanter. On apprend au départ des petites notes et puis après on fait des phrases de musique, etc.
Grâce à la curiosité, vous ne parlerez plus jamais comme avant. On vous explique comment fonctionnent nos cordes vocales dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La voix humaine est une merveille de l'anatomie.
RTL.
Jusqu'à 22h, est la signature de chaque individu.
La voix est le miroir de l'âme. Chaque voix est unique, comme les empreintes digitales.
La curiosité est un vilain défaut.
Elle joue un rôle essentiel dans la survie de notre espèce.
Sidonie Bonnec.
Par la voix, nous communiquons avec le monde extérieur.
Thomas Hugues.
Nous choisissons nos partenaires, nos amis et nos dirigeants.
La voix, c'est notre outil de travail sur RTL. On la module, on la bichonne pour ne pas risquer l'extinction. Mais au fait, comment se forment ces sons comme ça qui sortent de notre bouche? Et puis, comment prendre soin de cette voix? C'est Gérald Fin, pardon, médecin ORL et chirurgien de la voix qui nous guide. Tiens, quand j'ai la voix comme ça qui
vous chatouille?
Oui, ben qui dérape.
On peut essayer de chauffer la voix très simplement. Vous pouvez faire un mouvement qui est un peu un massage des cordes vocales qui est très simple. Je vais vous le singer. Vous faites un...
Oh, chouette.
En faisant
faire
ça.
Aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Direct sur rtl.fr.
Et puis vous pouvez remonter. Quand vous faites ça, vous envoyez de l'air entre les cordes vocales et ce mouvement de vibration des lèvres permet aux cordes vocales de se masser. Elles vibrent sans se toucher, donc elles chauffent. C'est le meilleur exercice que font les chanteurs lyriques. Que font certains comédiens, ils font ça avant de monter sur scène, un quart d'heure, 20 minutes.
Vous conseillez, vous soignez beaucoup de chanteurs, de comédiens?
Quelques-uns.
C'est là que vous êtes discret, c'est ça?
Forcément. On a un métier où on est les darties, on est derrière, on n'a pas ni donné de nom, ni... Notre rôle n'est pas d'être devant, sinon je ne ferai pas ce
métier. Alors, sans citer de nom, vous avez souvent sauvé des concerts comme ça en intervenant dans les minutes qui les précèdent?
Forcément, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous faites?
Ah ben c'est un secret.
Pourquoi, c'est votre secret ou c'est...
C'est à plusieurs niveaux. Un chanteur qui ne peut pas monter sur scène, bon, il y a eu de nombreux cas dont je ne vais pas donner de nom, c'est soit émotionnel, donc vous avez des gens qui tombent dans les pommes, qui ne veulent pas aller sur scène, donc c'est déjà arrivé. Donc le fait de venir les rassure et ils y vont, c'est un peu comme un coach qui lui dit « allez, on y va, tout va bien ». Ensuite, vous avez médicalement, effectivement, des problèmes aigus qui se sont posés, parfois à l'Opéra de Paris, parfois sur certaines scènes de showbiz, à l'entracte, et donc effectivement, si on nous appelle, mais il faut qu'on soit là. Donc soit on est dans la salle, soit on nous appelle. Et on peut effectivement, avec certains médicaments, sauver un spectacle. Ce sont bien sûr des gens de deux pans musculaires qui sont sans danger lorsqu'ils sont donnés à petite dose, mais on peut sauver une voix effectivement en urgence.
C'est-à-dire que juste par le stress, on peut perdre sa voix, Gérald Fin.
Bien sûr.
Bloquer.
Bien sûr, puisque la voix... On peut dire simplement ce que c'est un instrument à vent, c'est notre souffle, on parle et l'on chante à l'expiration, ce sont nos cordes vocales qui sont situées juste derrière la pomme d'Adam, nous avons deux cordes vocales et non pas plusieurs qui sont horizontales, elles font en moyenne 2 cm chacune, et au-dessus on a les résonateurs qui amplifient, qui modulent, qui donnent le timbre de la voix, d'ailleurs notre signature, c'est les résonateurs. Et l'émotionnel, vous savez que quand vous êtes stressé, aujourd'hui, je ne vous vois pas très stressé, mais quand on est stressé, on a tendance à avoir une respiration haletante. Mmh. Donc le fait d'avoir le cœur qui s'accélère, d'avoir une respiration difficile, la voix, elle couaque.
La voix qui tremble.
La voix tremble.
Et quand on stresse, on peut avoir une voix de tête aussi. C'est quoi une voix de tête?
Une voix de tête, c'est une voix de femme.
Ah, c'est une voix de femme, forcément. Un homme ne peut pas avoir une voix de tête.
Si, mais c'est une voix, on monte dans l'aigu. La voix de tête, c'est en fonction des résonateurs. Vous avez un résonateur qui va des cordes vocales à l'arrière-nez, pardon, pour le micro. Vous avez ensuite, on bascule la voix de l'arrière-nez dans le nez, c'est ce qu'on appelle la voix de tête, et après vous avez les articulations qui sont le nez, la bouche, la langue.
Et qu'est-ce qui se passe, Gérald Fin, quand on fait une extinction de voix? Qu'est-ce qui ne marche plus?
Alors il y a plusieurs raisons possibles. Il y a des raisons anatomiques, on peut avoir des anomalies sur les cordes vocales, des maladies de cordes vocales chirurgicales ou médicales. On peut avoir des troubles du fonctionnement de la voix, qui sont des troubles de la mécanique de la voix qu'on rééduque. Donc il y a de multiples causes. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est extraordinaire sur la voix, c'est le seul instrument du corps humain, si vous réfléchissez, qu'on peut voir à l'examen fonctionner. C'est d'ailleurs qu'un examen des cordes vocales prend environ, quand on est fatigué, 30 secondes, 45 secondes, et on voit les cordes vocales fonctionner en direct. Donc c'est très fascinant pour les patients.
Quand on baille, vous voulez dire?
Pardon ?
Vous voulez dire quand on est fatigué, quand on baille ?
Non, c'est une boutade, c'est-à-dire que...
Je suis vraiment fatigué, alors.
Ça prend
quelques secondes. Et donc, on regarde les cordes vocales, c'est très simple, et on voit donc les cordes vocales fonctionner en direct, devant nous, et on peut dire d'emblée au patient, tout va bien ou tout va pas bien, et ça rassure complètement les gens. Donc, c'est vraiment très fascinant, les cordes vocales, puisque c'est d'un accès relativement facile, et on a une conclusion de diagnostic très rapide.
Gérald Fin, pourquoi la voix est sexuée? Pourquoi moi j'ai une voix de fille et Thomas a une voix d'homme?
Alors c'est pas tout à fait ça. Vous voulez dire pourquoi il y a une attirance sexuelle ou parce que la voix...
Pourquoi j'ai une voix plus aiguë que celle de Thomas, par exemple, de la plupart des hommes?
Vous savez ce que c'est qu'une harpe? Une harpe, vous avez des cordes courtes qui font des sons aigus. Et vous avez des cordes longues qui font des sons graves. Ça veut dire que vous, vos deux cordes vocales font 17-18 mm. Thomas, il a de la chance, font 21-23
mm. Vous savez que chez... qu'il a une meilleure voix que moi.
Non, vous savez que chez les hommes, c'est toujours très plus long que normal.
Ça les rassure. Ça les rassure.
C'est pour ça que le bon Dieu a choisi la voix grave chez les hommes.
Je vous laisse les longues cordes vocales, c'est pas grave.
Mais au début, elles étaient toutes petites. Parce qu'il n'y a pas de différenciation chez les nourrissons. Quand on entend un nourrisson, on ne sait pas trop si c'est une fille ou un garçon.
Un nourrisson a des cordes vocales à 5 mm. 5 mm, c'est court, et au moment de la puberté, elle s'allonge. Donc un homme, c'est jusqu'à 21-22 mm. C'est pour ça qu'on a des voix graves. Les femmes, 17-18 mm. C'est pour ça que les pauvres ont des voix aiguës.
C'est vrai que chaque voix est unique? C'est une empreinte digitale, la voix?
Oui. On peut quand même limiter, on en parlera tout à l'heure, mais la voix, c'est une empreinte digitale. On m'a demandé, dans un procès célèbre d'un corbeau, de me donner mon avis sur une voix. Une voix, c'est personnel. La grosse différence avec une empreinte digitale ou une empreinte d'iris, c'est que la voix, elle varie dans le temps. Donc on peut tricher avec. Mais on peut, avec des algorithmes informatiques, effectivement, retrouver de nombreux paramètres qui font qu'on peut donner le nom d'une voix à la justice, par exemple.
Gérald Fin, vous publiez aux Petites Pommes du Savoir, de la parole au chant. Qu'est-ce que la voix ? Et on a d'autres questions pour vous. Tiens, par exemple, les imitateurs comme Laurent Gérard, quel est leur secret ? Vous avez la réponse.
Vous voulez que je vous la donne tout de suite ?
Non, ah non, je veux savoir si vous l'avez.
Juste après, au cœur de pirate.
Je vous la donnerai tout à l'heure.
Ah, génial.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut, sauf jusqu'à 22h sur RTL. On vous dit tout sur la voix, nos cordes vocales, les voix graves, les aiguës, les chaudes, les agaçantes, avec notre invité, le médecin ORL Gérald Fin, qui publie De la parole au chant, qu'est-ce que la voix, aux éditions Les Petites Pommes du Savoir. Je ne me lasse pas de dire ce nom de maison d'édition, Les Petites Pommes du Savoir.
Avec votre corde vocale longue, vous en
voilà.
Profitez.
Bah ouais, ah oui, j'assure, ouais. Grave. Genre, alors, pour lancer cette séquence, Sidonie Bonnec, je vous propose d'écouter 10 hommes en un.
Sur la cafetière, tu mets un bonnet rouge comme ceux des Bretons qui bousillaient les portiques et Cotax.
Et les seules luttes que je connaisse, c'est pas les luttes politiciennes, c'est les luttes à quatre cordes que je m'accompagne avec.
Un champion de France qui perd, ça vous rappelle rien ?
Je suis taquin. D'abord, je les emmène au restaurant pour un dîner en amoureux, un boudin purée, poulette à l'oignon farcé.
Moi aussi, ça m'est arrivé de me faire prendre en photo alors que je préparais une quenelle à Saint-Barth ou dans ma maison de Los Angeles.
Laurent Gérard, évidemment, on pourrait multiplier comme ça les personnalités qui l'imitent. C'était dans la matinale d'Ifcali sur RTL. C'est un talent, c'est un don, ce sont des cordes vocales qui ne sont pas comme les nôtres qui lui permettent de faire ça, Gérald.
Alors, cette question nous a été posée des dizaines de fois.
Pardon.
C'était
la 99e.
Ça me fait toujours un grand plaisir d'y répondre.
Ah, bien.
C'est comme si un prestidigitateur, vous pensez qu'il a trois mains. Un prestidigitateur, il a deux bras et il s'entraîne.
Ouais.
Donc un imitateur, c'est quelqu'un qui a un don énorme, d'abord dans l'audition. Il est capable de reproduire la prosodie. La prosodie, c'est un peu la mélodie de la phrase, les intonations, les accentuations, etc. Mmh. Donc il a déjà une caractéristique, il entend très bien. Donc il a ce que je veux dire, c'est qu'un imitateur, il a deux cordes vocales comme vous et moi.
Mmh. Mais il a de bonnes oreilles, donc.
Et il a de très bonnes oreilles. La deuxième chose, il a un don, il capte la gestuelle, le faciès. Donc il a un don aussi d'observation énorme. Donc il associe une mémoire auditive importante avec un don de captation des situations et des positions du visage, et surtout il a une énorme mémoire. Donc c'est ce don, si vous voulez, qui fait qu'il peut reproduire des voix, des gestuelles, des mimiques de personnes connues. Les imitateurs sont finalement les enfants de la télévision. C'est grâce à la télévision, à la radio, qu'ils imitent des personnes connues, qui font qu'on on ressent l'émotion, puisqu'on aime ou on n'aime pas les personnes qu'ils imitent.
Mais c'est un don aussi, imitateur, Gérald Fin.
Ah, c'est un don complètement. C'est un don, je pense d'ailleurs, quand on discute avec eux, qu'ils ont dès l'enfance, dès le plus jeune âge. Ils imitent leurs profs, ils sont d'ailleurs punis. Donc les élèves les plus punis sont des imitateurs qui en puissance.
Qu'apprend-on sur une personne à l'écoute de sa voix ?
Sa personnalité ?
On apprend beaucoup de choses. En consultation, quand un patient rentre, on voit la manière dont il rentre, la manière dont il pose ses mains, la manière dont il vous regarde et la voix. La voix donne beaucoup d'informations. D'abord, ça séduit. Donc une voix, il faut apprendre à séduire la personne en face de vous. Et ça donne des informations sur l'anxiété, sur le relâchement, sur la vérité. Ça demanderait une autre émission. Mais c'est vrai que la voix, c'est fascinant, puisque la voix est plus importante presque que les yeux. On peut, en fermant les yeux, ressentir beaucoup de choses. Les yeux nous aident à voir les couleurs, à voir les distances. La voix, c'est purement émotionnel.
Si vous deviez qualifier nos voix, Thomas et moi, puisque vous nous écoutez, vous nous avez vu poser les mains, regarder.
Petit sourire de Gérald Fin.
N'ayez pas peur d'être méchant.
Vous faites comme les professeurs, et vous avez un petit sourire en coin. Non, non. Thomas a une voix bien placée, grave, naturelle. C'est un monsieur calme.
Ça, c'est pas faux, ça.
très calme. Vous, vous êtes plus tendu, plus tonique. C'est tout. Après, il faut qu'on ferme les micros pour qu'on continue
la consultation.
Les supputations.
C'est vrai.
Mais c'est assez juste. Bien
c'est
vu.
Sûr que je suis plus tonique que Thomas.
Bien sûr, c'est tout ce que vous aurez retenu. Question sur la politique. Est-ce que la voix, c'est un pouvoir aussi?
Alors, on va faire un peu de la polémique. C'est un gros pouvoir, mais actuellement, les hommes politiques, je trouve qu'ils sont... On travaille beaucoup leur aspect physique, les cheveux, l'amaigrissement. Je ne parle pas d'hommes politiques particuliers, les cravates, les couleurs de cravates, etc. Mais il y a finalement très peu de politiques qui travaillent leur manière de parler. À part Giscard d'Estaing, certains vieux politiques à qui on donnait des cours, c'était d'ailleurs des professeurs de comédie française qui leur donnaient des cours, on a l'impression que la voix actuellement chez les politiques n'a pas d'importance, alors que c'est fondamental dans la communication.
D'ailleurs, on se moque souvent et on critique souvent la voix de François Hollande.
Par exemple. Mais je ne pense pas qu'il a eu à un moment, je pense, quelqu'un qui lui donnait des cours, mais il pourrait améliorer beaucoup sa communication en travaillant sa voix.
Merci mille fois, Gérald Fin. C'était passionnant. De la parole au chant, qu'est-ce que la voix, publiée aux éditions Les Petites Pommes du Savoir.
Vous écoutez RTL.